Luc Perrineau est notre grand invité aujourd'hui. Luc Perrineau, médecin généraliste, spécialiste de médecine tropicale, épidémiologiste, essayiste, blogueur, chroniqueur radio. Il enseigne également à l'université Claude Bernard de Lyon, Sarah Dirène.
Oui, il enseigne la médecine évolutionniste, titre de son dernier livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil. La médecine évolutionniste, c'est introduire la pensée de Darwin, les lois de l'évolution, en médecine clinique. C'est faire le lien finalement entre l'histoire de la vie, depuis les toutes premières bactéries, et les histoires personnelles. C'est aussi faire le lien entre les facteurs individuels et les facteurs environnementaux. Introduire finalement la biologie évolutionniste en médecine, c'est par exemple pour mieux comprendre pourquoi nous ne synthétisons pas la vitamine C ou pourquoi notre bipédie est responsable de l'acné, l'acné de nos ados. Oui. Comprendre aussi pourquoi votre petit enfant rechigne à manger des légumes verts ou encore expliquer la forte augmentation des maladies auto-immunes aujourd'hui. Alors nous allons bien sûr développer ce pan passionnant de la médecine, mais avant, quelques mots peut-être pour situer notre invité. Luc Perrineau est un infatigable militant, non seulement pour que la formation médicale soit continuée et indépendante, mais aussi à travers ses livres et son blog, il vulgarise avec pertinence les sciences cliniques. Je vous conseille vraiment la lecture de ses humeurs médicales. Ce médecin au franc-parler a longtemps exercé en Chine tropicale, en Afrique subsaharienne et dans la France rurale. Aujourd'hui, son cabinet de généraliste est situé en ville, à Lyon. Il a même fait l'objet d'un film en 2007, La Consultation. Et vous dire encore que Luc Perrineau a travaillé pour l'industrie pharmaceutique, ce qui lui permet d'affirmer sans embâge que la médecine est soumise au marché. Mais ça, peut-être, le saviez-vous déjà, Stéphane ?
Luc Perrineau, aujourd'hui dans CQFD. Je rebondis sur l'exemple cité par Sarah. Mon enfant rechigne à manger des légumes verts. C'est tout à fait normal, dites-vous, à la lumière de la médecine évolutionniste. Quelle explication apportez-vous à ce refus presque généralisé chez nos ados des légumes verts?
Alors, c'est pas les ados, c'est les jeunes enfants.
Les jeunes enfants, oui, c'est vrai. Les ados, c'est l'acné, c'est autre chose.
Les jeunes enfants, oui. Alors, il y a une explication possible, une des explications, mais il y en a une qui est assez séduisante et sans doute assez vraie, c'est que les végétaux, c'est, comme vous le savez, par rapport aux animaux, se défendent, sont immobiles et se défendent avec des toxines. Hein, un arbre ne peut pas s'évader en cas de prédation, donc il élabore des toxines. Et donc, les végétaux, d'une manière générale, élaborent des produits chimiques pour faire fuir les prédateurs. Donc, hein. Et donc, c'est dans les végétaux que les chasseurs-cueilleurs, nos ancêtres, avaient le plus d'ennuis. Donc, il y avait une protection naturelle contre les végétaux, surtout chez la femme enceinte et le jeune enfant qui se prémunissait contre ces toxines naturellement, parce que, sans doute, il y avait eu des accidents. Donc, ça explique que tant qu'on n'a pas bien connu et maîtrisé les végétaux et que les enfants n'ont pas bien compris ce qu'il fallait cueillir ou pas cueillir, et ils sont réticents à manger des végétaux, sans doute. C'est un long apprentissage et les jeunes enfants donc ne l'ont que très tard.
Mais justement, Luc Perrineau, lorsqu'on parle de médecine évolutionniste, qu'est-ce qui change justement dans notre corps? On parle d'un génome qui se transforme, un corps, un métabolisme, un phénotype. Qu'est-ce qui fait justement qu'un petit enfant rechigne à manger son récord? On a bien compris l'historique, mais qu'est-ce qui va changer dans notre corps?
Mais manifestement, enfin, je me permets de compléter, mais manifestement rien, puisque le petit enfant d'aujourd'hui est le même qu'à l'époque. C'est-à-dire qu'il veut pas manger de légumes verts.
Oui, enfin là, c'est un peu simplifié, mais d'abord, on change en permanence. Il y a des choses qui évoluent d'autres très vite, d'autres moins vite, et il est probable que ce rejet des légumes est sans doute moins puissant qu'il ne l'était à l'époque où ça pouvait mettre la vie en danger. Probablement, hein, je le suppose. Je n'étais pas là à cette époque, mais en tout cas, on a une explication assez logique d'un continuum
qui est marqué dans nos gènes. Aussi.
Alors le problème je comprends ce que vous voulez dire, c'est le support donc de ce que l'on est. Alors il y a plusieurs types de supports. Il y a effectivement le premier, le plus ancien, c'est le génome. Hein. Celui-là, il est très long à modifier. Hein. C'est un grand bateau qui est difficile à manœuvrer. Et pour changer un génotype, il faut des millénaires, voire beaucoup plus. Donc ça, c'est difficile. Par contre, il y a l'expression des gènes qui, elle, peut se modifier plus rapidement. Hein. C'est ce qu'on appelle le phénotype, hein. Ce qui a un autre nom, disons, qui est l'épigénétique. génétique, c'est-à-dire comment les gènes sont exprimés ou pas exprimés. Et ça, c'est plus facile à modifier, ça prend moins de temps. Hein, on peut modifier un phénotype en une génération. Donc c'est sans doute ce qui se passe, des modifications du phénotype, lorsque l'environnement change trop brutalement. Hein. Mmh. Lorsque l'environnement change modérément, bah, ça met du temps à réagir, mais quand il y a un changement brutal, c'est ce qu'on appelle la plasticité phénotypique. Le phénotype change.
Alors peut-être faut-il retracer très brièvement, Luc Perrino, les grandes transitions subies par l'Homo sapiens depuis le néolithique, en fait, il y a 10 000 ans. La sédentarisation, par exemple, qu'est-ce qu'elle a changé dans notre phénotype ?
Alors, donc, vous avez employé le mot transition, c'est très bien, c'est ce qu'on appelle, nous, c'est un grand thème donc de la médecine évolutionniste, ce qu'on appelle les transitions épidémiologiques. Hein. C'est un nom qui fait un peu peur, mais pourtant il est simple. Hein. C'est-à-dire que dans l'environnement, il y a l'environnement d'abord change toujours, mais il y a quand même des périodes dans l'histoire de l'homme où il a changé assez vite. Alors, effectivement, il y en a une qui est très, très, très connue et qui a eu des conséquences importantes, c'est ce qu'on appelle la révolution néolithique. Et là, tout a changé. L'alimentation a changé. Les modes d'infection, les microbes qui nous entouraient ont changé. Ils sont venus de nos animaux domestiques. C'était pas les mêmes que ceux de la faune sauvage. La sédentarité, vous venez de le dire, hein, les hommes ont été moins mobiles. Donc tout ça, forcément, ces trois changements brutaux que je viens de nommer, entre autres, ont entraîné des modifications, bien sûr.
Et j'imagine que toute la révolution pasteurienne, Luc Perrino, c'est l'hygiénisme, vaccin antibiotique, voilà, ça a changé. Ça a été une autre grande transition.
Alors si on continue effectivement dans les transitions épidémiologiques, il y en a eu une seconde qui a été la révolution industrielle, hein, qui a fait que les gens n'ont plus vécu, 90% de la population vivait donc en zone rurale, en contact avec ce qu'on appelle les boues, la terre, les animaux, et du jour au lendemain, ils n'ont été en contact qu'avec des sols sans terre, hein, des goudrons, des ciments, et donc là, l'environnement a changé, et puis après, donc là, il y a eu des épidémies catastrophiques au moment des urbanisations. Et après, il y a eu ce qu'on appelle la révolution pasteurienne, vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'on a mis l'hygiène au cœur des villes. Et donc là, il n'y a plus de contact ni avec les terres, ni avec les microbes, ni avec rien. On a stérilisé l'eau, on a lavé les aliments. Et donc là, on a fait bien sûr des vaccins, qui est une très bonne chose. Hein. Je ne fais aucune critique contre ça. J'espère que vous le comprenez bien. Hein. Mm-hmm. Les vaccins est une bonne chose. On a trouvé les antibiotiques en dernier, longtemps après les vaccins. Et tout ça a effectivement stériliser notre environnement.
Et ça veut dire que du moment qu'il n'y a plus de pression, Luc Perrino, de pression parasitaire, il n'y a plus d'infection, notre corps, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, hop, il y a la place pour des maladies auto-immunes, par exemple ?
Oui, c'est une de résumer la chose. Notre environnement infectieux, notre environnement microbien parasitaire, on appelle ça les parasites, hein, qui contiennent donc les parasites, les microbes et les virus. C'est pas le même mot qu'on utilise si on est médecin ou biologiste d'ailleurs. Les biologistes appellent parasites et nous, les parasites, c'est très particulier, c'est autre chose. C'est aussi un problème de compréhension. Bon. Donc quand notre environnement devient pauvre en parasites, il n'a plus, notre système immunitaire se trouve un peu...
Voilà, donc il y a des parasites sur la ligne. Il y a quelques parasites, je le signale juste pour les auditeurs. Nous sommes avec vous, Luc Perrino de Paris. Il y a quelques parasites sur la ligne. On va essayer de réparer ça tout à l'heure. Mais poursuivez, on va essayer de poursuivre.
Donc justement, nous parlions de parasites, mais pas des mêmes. et donc, lorsque ce système immunitaire n'a plus les mêmes... Il change d'ennemis, en fait. Il peut se trouver effectivement de nouveaux ennemis. Et c'est une des explications, entre autres. Il faut toujours être très discret et très modéré quand on veut rester scientifique. Mais il y a effectivement une augmentation de ce qu'on appelle les maladies auto-immunes qui pourraient être dues à ce manque d'ennemis à combattre.
Mmh. Est-ce que nous avons gardé en mémoire, je ne sais pas, les traces de ces virus, peste, variole, des grandes épidémies ? Est-ce qu'il y a un héritage épigénétique ?
Ah ben bien sûr. Le fait, par exemple, qu'on ait eu à lutter, alors je vous donne un exemple entre mille, mais par exemple le fait que les grandes épidémies de peste, donc qui ont eu lieu en Europe, surtout en Europe essentiellement, ces grandes épidémies ont modifié durablement la réaction à d'autres maladies qui sont venues après. Et on explique que la réaction, par contre, la sensibilité au sida, par exemple, pourrait être différente en Europe que dans d'autres pays, parce que nous avons développé certains anticorps contre la peste. Voilà, c'est dit simplement, mais c'est un peu vrai. Ont durablement marqué nos organismes.
Luc
de
Perrino,
façon, ouais, génétique et épigénétique, les deux.
Luc Perrineau, la médecine évolutionniste, passionnante, hein, on s'en rend compte, jusqu'à 11h dans la CQFD. Voici une première chanson, puis nous verrons comment l'approche évolutionniste en médecine aide à soigner l'écosystème humain. Voilà, vous nous détaillerez tout cela après Jean-Louis Aubert.
Je chante pour ceux qui passent, et qui passent, et qui passent. Dans les grandes surfaces, un jour font surface. Dans les supermarchés, s'arrêtent de supermarchés. Ma tête de gondole, dans les Fnac et les mégastores, roule avec celle de vos idoles jusqu'au pied des escalators. Roule avec celle de vos idoles, et ton plus grand vivant que mort. Je chante le produit de mes vols de nuit. Je chante à l'énergie, à qui veut bien l'entendre. Moi qui me suis arrêté, je chante pour ceux qui passent. Et qui passent, et qui passent. Comme nous passons tous d'un sas vers un sas. Comme on est, on trépasse d'un sas vers un sas. Tous à la casse. Je chante pour ceux qui restent plantés là. Sur le pas de la porte, j'y vais ou j'y vais pas. Que le diable m'emporte, j'y vais et on verra. Je chante le produit de mes vols de nuit. Je chante à l'énergie, à qui veut bien l'entendre. Je chante à ton endroit. Je chante pour ceux qui passent, et qui passent, et qui passent, et qui de guerre lasse. Dans les grandes surfaces, un jour refont surface. Dans les supermarchés, s'arrêtent de supermarchés. Je chante pour ceux qui passent, et qui passent, et qui passent, pour les veilleurs de nuit, ceux de Souchon et ceux d'Igui, pour les marins en transit, pour les marins en transat, pour les bébés et les magies, pour les grands et les petits, pour les petits de chambre la nuit. Je chante pour ceux qui restent.
À ceux qui passent, c'était Jean-Louis Aubert sur la première. Il est 10h26. Notre grand invité aujourd'hui est Luc Perrineau, médecin généraliste, épidémiologiste notamment. À travers vos livres ou votre blog, Luc Perrineau, vous vulgarisez avec humour hein, la médecine clinique. Et vous militez aussi pour une médecine indépendante. Votre dernier livre, paru au Seuil, pour une médecine évolutionniste, une nouvelle vision de la santé, nous fait découvrir un pan finalement peu connu de la médecine. Comment se fait-il justement que la pensée de Darwin, cette biologie de l'évolution, ne fasse pas partie du vaste champ de la médecine ?
Eh bien, c'est ce qu'on essaye de mettre en place à la Fac de Lyon, puisqu'on a créé le premier diplôme universitaire donc européen qui s'appelle Biologie de l'évolution et médecine. Mais il y a une explication historique toute simple et toute bête qu'il faut donner brièvement pour nos auditeurs. C'est que lorsque Darwin a écrit son premier livre, donc son grand livre en 1859, L'origine des espèces, qui a été donc le fondement de la biologie en tant que science, hein, c'est-à-dire qu'avant les biologistes n'étaient que des observateurs de la nature, ils n'avaient pas de théorie scientifique. Lorsque donc il a écrit ce livre, la médecine avait déjà dépassé ce qu'on appelle la phase anatomoclinique de la Hennec, de Charcot, des grands médecins. Et donc, elle avait atteint une certaine expertise diagnostique. On avait très bien compris les maladies, comment elles s'exprimaient. Donc, les médecins n'ont jamais eu besoin de la pensée de Darwin. Ils étaient, j'allais dire, bien en avance. Hein. Donc, voilà pourquoi ils ne se sont pas rencontrés, en tout cas à ce moment-là. Et puis après, il y a eu, après donc cette biologie de l'évolution, qui a dominé toute la biologie, j'allais dire, jusque dans les années 1950, il y a eu l'avènement de la génétique, avant même les années 50, mais la génétique est devenue prédominante. Et c'est ce qu'on a appelé la biologie moléculaire. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas, on ne cherchait pas l'explication évolutionniste, comme Darwin le faisait sur les faits de la vie et de l'histoire de la vie. On cherchait l'explication moléculaire. Et cette explication moléculaire a immédiatement séduit la médecine. Hein, parce que la médecine, elle est assez fixiste dans son raisonnement. Une maladie est là pour toujours, elle arrive. Et donc, la génétique, c'est-à-dire biologie moléculaire et médecine, se sont vite mariées, j'allais dire, dans les années 40-50, immédiatement rencontrées. Et ben la pauvre biologie de l'évolution, elle est restée en retrait. Hein, c'est vraiment historique. Et puis maintenant, c'est une troisième phase, c'est qu'avec les merveilles donc de la génomique, comme vous le savez, de la métagénomique et de la génomique, les deux biologies, la moléculaire et l'évolutionniste, se rencontrent enfin de nouveau. Elles sont sur le même champ, le même terrain d'exploration. On explique l'histoire de la vie par les évolutions moléculaires. Donc comme elles se sont rencontrées, la médecine va enfin pouvoir, à son tour, rencontrer la biologie de l'évolution. Je ne sais pas si j'ai été bien clair, mais donc on est dans une troisième phase.
Mais est-ce à dire, Luc Perrénon, qu'il y a deux visions du corps différentes ?
Non, non, simplement nous progressons dans la connaissance. Hein. Alors il y a qu'une physiologie, hein, il y en a pas deux. On ne la connaît pas encore complètement, mais il y a qu'une physiologie, il y a qu'une anatomie pour le corps humain, et nous progressons dans la connaissance. Et nous sommes arrivés, comme vous le savez, à un niveau de connaissance assez impressionnant quand même. Hein, il faut bien le dire. Et donc ce niveau de connaissance, on était un petit peu, j'allais dire, à bout de souffle. Hein. Il y a un moment où on est en palier, on ne progresse plus. Et cet apport de l'évolution donne un nouvel élan, presque une forme d'optimisme. On va recomprendre des nouvelles choses, des nouvelles évolutions grâce à ça. Donc c'est un petit, j'allais dire, c'est un petit moyen théorique supplémentaire pour essayer de mieux comprendre. Ça aide notamment beaucoup dans la recherche en cancérologie, je donne cet exemple. Alors, en infectiologie évidemment, mais en cancérologie, nous comprenons pourquoi une tumeur est finalement un processus darwinien de cellules qui se combattent entre elles. Et nous comprenons pourquoi, entre autres, les thérapies ciblées sur une seule cellule, qu'on appelle un clone cancéreux, eh bien, ne fonctionnent pas parce que les cellules qui ne sont pas sensibles à cette thérapie ciblée, c'est les autres cellules qui vont prendre le dessus. On est dans une compétition complètement darwinienne.
Mais ça, vous prenez, Luc Perrénon, le cancer. En fait, c'est de l'écosystème à l'intérieur, enfin, c'est la médecine évolutionniste à l'intérieur de notre corps. C'est ça.
Ben, parce que
c'est ça.
Ouais, pardon. Excusez-moi, je vous ai coupé, pardon. Non, si vous voulez dire que c'est la notion de l'individu. Ouais. Un individu, vous, moi, nous ne sommes pas des individus. Nous sommes des écosystèmes. Hein. Notre individu, il est même assez difficile à définir. C'est un des nouveaux problèmes. Si on pousse très loin dans la biologie, un individu, ça n'est pas tellement bien défini. Un organisme individuel, c'est complexe. Hein. Nous, comme vous le savez, nous avons un microbiote qui est beaucoup plus riche que nos propres cellules. Notre génome, quand on vous fait votre génome, on ne fait qu'un centième des gènes que vous possédez en vous. Un centième seulement des gènes. Alors c'est très utile d'un point de vue juridique, hein, pour trouver l'ADN du coupable, mais d'un point de vue biologique, un génome n'a pratiquement pas de sens, pas de signification.
Oui,
donc vous voyez que c'est compliqué.
Oui, ce que vous êtes en train de dire, c'est que notre ADN, il y a plein de gènes qui... Enfin, vous parlez d'épigénétique, finalement. Et l'épigénétique est difficilement codable. Ce sont tous les gènes qui ne sont pas codés par les protéines.
Alors, excusez-moi de vous couper. C'est deux aspects différents. Là, je vous parle des gènes qui sont en nous. Les gènes qui sont en nous, c'est nos propres gènes, oui, de nos propres cellules, donc on appelle ça de notre corps, d'organisme, et puis les cellules de nos microbiotes, de notre microbiote. Donc, c'est ça, le métagénome d'un individu. Par contre, là, le problème que vous évoquiez juste maintenant, c'est un autre problème. C'est-à-dire que dans notre propre génome, je ne parle pas de celui du microbiote, donc là, dans notre propre génome, de nos propres cellules, il n'y a effectivement qu'un petit pourcentage qui est exprimé. Et il y a ce qu'on appelle l'ADN poubelle, alors qu'il représente, selon les auteurs, à peu près 90%. Donc, 90% n'est pas exprimé. En tout cas, on ne connaît pas son expression.
Alors si on revient sur le cancer, il y a une chose que j'ai pas très bien encore saisie, Luc Perrénon, mais je suis sûr que vous allez réussir à me convaincre, c'est quel regard nouveau et intéressant vous, en tant que médecin évolutionniste, vous pouvez apporter sur la maladie par rapport à un médecin plus classique qu'on va appeler moléculaire, puisque vous faisiez la différence tout à l'heure.
Alors, d'abord, nous comprenons, alors c'est un regard effectivement un peu nouveau, mais hélas, le cancer est un problème qui reste ouvert, hein, il faut être très modeste, hein, on n'a pas fait beaucoup de progrès sur le cancer, du point de vue thérapeutique, c'est triste à dire, on a fait quelques progrès bien sûr, hein, la radiothérapie, la chirurgie, mais on a quand même de la peine à combattre les cancers par des moyens pharmacologiques. Donc le cancer, si vous voulez, c'est que Les cellules, on a très bien compris, alors il faut remonter très loin, si vous me permettez de remonter très loin. Mmh. Avant, il y avait, jusqu'à 1 milliard d'années, on va dire, les organismes étaient unicellulaires. Il n'y avait que des êtres vivants qui n'avaient qu'une cellule. Et puis, ces donc cellules étaient autonomes, indépendantes, elles se débrouillaient très bien. Et un jour, les organismes, progressivement, sont devenus multicellulaires. Donc les cellules ont dû coopérer entre elles pour défendre un organisme, et ces cellules se sont différenciées. Mais il y a des cellules qui ont été un peu indisciplinées, et qui ont joué cavalier seul. Et ces cellules, bien sûr, l'organisme a essayé en permanence de les éliminer. Donc l'évolution a très bien réussi à les éliminer la plupart, mais vous savez, on ne termine jamais, l'évolution ne termine jamais complètement le travail, et il subsiste des cellules indisciplinées, qui sont donc égoïstes, et qui se réveillent de temps en temps, qui se multiplient pour leur propre compte, c'est les cellules cancéreuses. Mmh. Mais ces cellules cancéreuses, elles n'arrivent pas, elles peuvent arriver aussi simplement parce que dans notre organisme, toutes les cellules, donc les cellules souches tissulaires, les cellules tissulaires définitives, ne peuvent pas se multiplier plus de 60 fois après elles meurent. Mais au cours de ces mutations successives, de ces divisions successives, pardon, il y a des mutations et certaines mutations peuvent devenir de type cancéreux. Donc le cancer, il y en a qui vont jusqu'à dire le cancer n'est pas une maladie, c'est une évolution normale d'un individu. Forcément, maintenant que nous vivons un petit peu plus longtemps qu'avant, je dis un petit peu parce que c'est pas tant qu'on croit, on a surtout diminué la mortalité infantile, mais maintenant que nous vivons plus longtemps, effectivement, les cancers en fin de vie ont de plus en plus de chances de se manifester, c'est logique.
Est-ce que ça vaut du coup la peine de les diagnostiquer, tous les cancers, Luc Perrineau?
Alors, vous parlez, il y a beaucoup de sujets, hein, on va pas y arriver. Mais c'est bien, je vois que vous êtes très curieux, mais ça me stimule. Oui, là, vous parlez du dépistage et non pas du diagnostic. Ça, c'est très important. C'est un sujet très important parce qu'on est en train de se rendre compte que donc le dépistage généralisé, alors, faut faire la distinction entre trois choses. Le diagnostic, c'est vous avez vous-même constaté que quelque chose n'était pas bien dans votre sein ou dans votre ventre ou dans je ne sais quoi, et vous allez voir le médecin qui vous trouve un cancer. Donc le cancer est diagnostiqué, c'est-à-dire que c'est vous, patient, qui êtes allé apporter votre symptôme, votre problème au médecin. Hein ? Donc c'est dans l'ordre logique de la médecine, c'est toujours les patients qui vont voir les médecins parce que quelque chose ne va pas. Donc là, le cancer est diagnostiqué. Et puis maintenant que nous avons donc une médecine un peu plus envahissante, on va dire, on propose de rechercher les cancers c'est chez des personnes qui ne se sont jamais plaintes de rien, en fait. Hein, voilà. Donc ça s'appelle le dépistage. Et ce problème du dépistage, donc avant tout symptôme, les patients vont bien et puis on leur dit, vous avez une cellule cancéreuse dans le sein ou dans la prostate ou dans le côlon. Et ce dépistage a apporté beaucoup d'espoir. Moi-même, j'ai été tout à fait favorable à tous les dépistages quand j'étais jeune médecin parce que ça apportait beaucoup d'espoir, évidemment. Hein. On s'est dit, voilà, les cellules cancéreuses, on les trouve à leur début, on les enlève et il n'y en aura plus. Voilà. Et hélas, l'expérience a montré que ce n'est pas comme ça que ça se passe, hein, puisque c'est une faiblesse du système immunitaire. Les cellules cancéreuses qui ont apparu une fois réapparaîtront ailleurs. Et on se rend compte aussi que ces dépistages, d'un point de vue statistique, ont amené très peu, j'ose pas dire, j'ai peur de me faire insulter par certains confrères, j'ose pas dire aucun, mais presque zéro. Les vrais progrès en cancérologie sont surtout du domaine sur les cancers, donc diagnostiqués par les progrès de la chirurgie, de la radiothérapie.
Les traitements après, oui.
Voilà, on a fait, je crois, on peut le dire, beaucoup de progrès quand même, même si les résultats ne sont encore pas très, très, très bons, mais on a fait beaucoup de progrès dans le traitement de ces vrais cancers que les gens sont venus amener chez le médecin. Alors, mais il apparaît que ceux que l'on cherche avant qu'ils existent, finalement, d'un point de vue clinique, il apparaît que cette intervention médicale, qui était, je vous dis, j'ai adhéré totalement à ça, il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui, les résultats sont plutôt, plutôt négatifs.
Voilà pour le cancer, Luc Perrineau. J'ai envie de prendre un autre exemple que vous citez, la fièvre, par exemple. Comment le médecin évolutionniste que vous êtes va interpréter ce symptôme, cette fièvre qu'on a parfois?
Alors là, donc, on change de sujet. On parle de l'utilité des symptômes. Alors ça, c'est très important. C'est aussi un des grands thèmes de la réflexion évolutionniste en médecine clinique. C'est l'utilité des symptômes. Les symptômes ne sont pas venus simplement pour nous embêter. Hein. On n'a pas mal au ventre juste pour qu'on ait mal au ventre. Hein. On a mal au ventre parce que le mal au ventre informe l'organisme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La fièvre informe généralement l'organisme. Donc il y a une agression microbienne ou virale hein, ou parasitaire donc qui a lieu dans l'organisme. Et donc, ça donne la fièvre. Mmh. Et elle informe l'organisme. Et aussi, dans le cas notamment des bactéries et des parasites, la fièvre est un moyen de lutte contre ces bactéries et ces parasites. Donc, c'est un symptôme utile. Si on développe la fièvre, c'est pour créer une inflammation que les bactéries n'aiment pas. Mmh. Hein. Donc, vouloir à tout prix, alors il faut modérer mes propos, bien sûr, j'espère que vous comprendrez, vouloir à tout prix faire baisser la fièvre, ça n'est pas toujours une bonne idée. Quand j'étais jeune médecin, on disait, il faut respecter la fièvre pendant 2 ou 3 jours avant de prendre une décision. Maintenant, on le dit moins. Vous voyez, on était plus évolutionniste il y a quelques années qu'aujourd'hui. On ne respecte plus la fièvre. Il faut savoir la respecter quelque temps pour voir ce qui se passe. Ça, c'est important.
Oui, c'est comme la toux. Il faut peut-être...
Alors, la toux, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle un symptôme utile, puisque c'est une contraction des bronches pour éliminer donc les virus et les bactéries qui se trouvent dans les bronches. Donc la toux est indispensable. Et heureusement qu'il y a la toux, s'il n'y avait pas la toux. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le symptôme le plus robuste. Robuste en évolution, ça a un sens très précis, c'est quelque chose qui est difficile à faire bouger. Et elle est très robuste, vous savez, la toux ne disparaît que ce qu'on appelle dans la phase terminale de la vie. Vous avez sans doute vu des mourants, si vous avez eu cette malchance de voir des mourants, et ils ne savent plus tousser, on appelle le roncus, il y a des ronflements permanents, ils ne peuvent plus expectorer. C'est vraiment le signe que l'organisme est à bout. Tant que l'organisme a un peu d'énergie, il peut tousser. Donc la toux, c'est un signe de bonne santé, déjà, il faut le dire. Et effectivement, on se rend compte que rien, de tous les médicaments antitussifs qu'on a fait, aucun pratiquement ne peut empêcher la toux. Ce ne sont que des placebos et ils ne sont pas très utiles. La toux est vraiment utile. Elle a par contre un ennui. Elle a un ennui, j'allais dire, pour notre confort. C'est qu'elle dure longtemps après que l'on n'en ait plus besoin. Ça, c'est embêtant. Voilà. Souvent, une toux a réglé le problème infectieux est réglé très vite. Mais la toux peut persister 2 à 3 semaines, ce qui est très désagréable, mais voilà, c'est comme ça.
Merci docteur pour ces précisions. Luc Perrineau, je vous rappelle, vous pratiquez une médecine généraliste depuis plus de 30 ans. Vous êtes à l'écoute de vos patients, de leurs symptômes. Et votre cabinet a fait l'objet d'un film en 2007, un documentaire d'Hélène de Crécy, La Consultation. Je vous propose un tout petit extrait. Ah.
J'ai pas dormi de la nuit, docteur. J'ai l'impression que quand je me tiens, ça me fait moins mal.
Ben oui, c'est comme une crampe. C'est une crampe des muscles du cou. Vous avez eu des crampes dans les jambes.
Ouais, bah
c'est pareil.
Dans le cou, quand même.
Eh ben oui, dans le cou, ça fait très mal. Mais c'est pas plus inquiétant que dans les jambes. Donc, vous allez acheter ce qu'on appelle un collier cervical souple. Hein, si c'est trop cher et si c'est pas complètement remboursé, demandez-leur, parce que je sais que vous avez des problèmes de finances. Alors, je vais vous expliquer. Si c'est trop cher, vous le prenez pas. Vous le fabriquez vous-même. Vous allez prendre le journal de Lyon, le Progrès de Lyon. Vous allez prendre une page double ou deux pages. Vous allez la plier en bandes. Comme ça, vous pliez des bandes de journal, vous prenez une serviette de bain ou un torchon de cuisine, vous le mettez autour du papier journal, pareil, plié en bandes, et vous le serrez bien fort autour du cou, comme ça, avec deux épingles de nourrice, vous serrez très fort, d'accord. Vous accrochez tout ça, et ça vous fait un collier cervical souple, aussi bien que celui que vous achèterez en pharmacie. Rester assise comme ça.
Je fume beaucoup, donc c'est peut-être pour ça que je suis tout le temps
enrhumée. J'allais poser la question.
Ouais.
Que c'est quoi beaucoup ?
10 à 15 cigarettes par jour.
Et puis vous avez dit quoi après ? Je fume beaucoup. Et puis vous avez dit autre chose après ?
Non.
Si, vous avez dit je fume beaucoup, c'est peut-être pour ça que...
Que je suis enrhumée tout le temps.
Ben, le diagnostic est fait et le traitement est fait. Au revoir.
Ah non !
Non mais vous avez fait le diagnostic, vous avez fait le traitement.
Ouais, mais bon.
Le traitement, c'est d'arrêter de fumer et le diagnostic est fait. Au revoir.
Non
mais au revoir.
Il y a beaucoup de gens qui fument et qui sont pas enrhumés toute l'année.
Oui, mais il y a des gens qui supportent moins le tabac que d'autres. Comme il y a des gens qui supportent moins plein de choses que d'autres.
Ouais, non, mais c'est vrai, vous avez raison. Disons, je le sais, ça, ouais.
Allez-y, prenez une grande inspiration. C'est dommage hein, que vous ne puissiez pas vous arrêter, parce que ça vaut encore le coup, vous voyez ce que je veux dire. Je pourrais vous dire, ne vous arrêtez pas parce que c'est trop tard, c'est foutu. Peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, on dira, bah, faites comme vous voulez. Là, ça veut dire qu'on aura abandonné. Parce que là, vous aviez eu la dernière fois une grosse poussée d'insuffisance hépatique. Et là, bon, le foie est encore gros, mais vous n'êtes pas du tout dans l'état où vous étiez quand je vous ai vu. C'est vraiment du gâchis à tout point de vue, quoi. Vraiment.
J'en suis le premier conscient, mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Pourquoi, en fait, ce suicide lent ? Parce qu'en fait, c'est ça, hein.
C'est assez cash hein, comme médecin, on l'aura compris, Luc Perrineau.
Oui. Vous avez voulu me ramener à la médecine de terrain, oui. Qui, contrairement à ce que vous pourriez croire, n'est pas du tout éloignée de la pensée évolutionniste. Hein. C'est une médecine de terrain quotidienne, moi, qui m'a rappelé des vieux souvenirs. Mais en fait, cette réflexion évolutionniste veut s'inscrire dans la clinique aussi de terrain.
Alors, de quelle manière, justement, peut-elle s'exprimer sur le terrain?
Ben, je... Ben, je crois qu'il y a une chose très importante, c'est l'explication. Là, vous avez cité des extraits, ça m'a amusé, amusant pour tout le monde, mais l'explication est quelque chose de très, très important. Alors, et en fait, l'explication, il y a des explications que nous n'avions pas, et que nous avons maintenant grâce à ce courant, cette pensée évolutionniste. Je vais prendre un exemple très simple, très connu, je crois connu au moins de presque la moitié de vos éditeurs, puisque ça concerne les femmes et surtout celles qui ont eu un enfant, donc un peu moins de la moitié sans doute. Voilà. Et donc, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les nausées et les vomissements du premier trimestre de la grossesse.
Oui.
Ces nausées ont une explication qui est exactement la même que celle que nous avons donnée pour le dégoût donc des légumes verts chez les jeunes enfants. La femme, le premier trimestre de la grossesse, c'est le moment où l'embryon est le plus vulnérable. Donc tout a été fait dans la nature pour que rien de toxique n'arrive jusqu'à cet embryon. Et les nausées et dégoûts de la femme enceinte résultent de ce dégoût naturellement mis en place par l'évolution chez toutes les femmes enceintes au premier trimestre. Et il se trouve que nous n'avons aucun moyen pour faire diminuer ces nausées, aucun moyen pharmacologique. Nous n'avons rien. Le seul, vous connaissez sans doute, vous rappelez de l'exemple dramatique de la thalidomide qui était fait pour diminuer ces nausées et vous savez les répercussions que ça a eu. Donc quand les médecins ont voulu faire quelque chose contre les nausées, ils ont fait pire encore. Si vous expliquez très correctement à une femme qui c'est très pénible, hein, je n'ai pas l'expérience de ça, mais j'ai vu mes patientes, c'est quelque chose de parfois assez pénible. Si vous donnez une explication cohérente et logique et que la personne a compris que finalement, en faisant ça, alors elle le faisait plus parce que maintenant on n'a peut-être plus besoin des nausées, mais c'est la suite du fait que les mères ont protégé à l'excès leur enfant. Je suis sûr que ça va intervenir pour 50% dans l'amélioration des symptômes.
Mais là, justement,
je ne sais pas si mon raisonnement a été très clair, mais je crois que c'est important.
Mais là, justement, Luc Perrineau, vous parlez de symptômes, c'est-à-dire qu'une femme arrive, elle a des symptômes, elle a des nausées. De plus en plus de patients arrivent parfois sans symptômes. Aujourd'hui, on a des maladies sans symptômes. Vous faites
donc
quoi?
Donc c'est l'autre, on revient sur le sujet dont vous parliez, c'est le dépistage. C'est-à-dire que les patients viennent, c'est parce qu'on leur a dit, allez voir votre médecin pour faire... Vous parlez de ça
Oui, exactement. Et vous, en tant que médecin généraliste, vous faites quoi?
Par exemple, les fameux check-up de la sécurité sociale qu'on faisait il y a 40 ans, qu'on fait de moins en moins, qu'on faisait il y a 30 ans, ben ça s'est révélé totalement inefficace, hein, comme le dépistage. C'est-à-dire qu'en fait, la médecine n'a jamais été très bonne quand elle s'est occupée des bien portants. Elle a été excellente quand elle s'est occupée des malades. Ce que je dis, ça paraît un peu ridicule, mais il se trouve que la médecine est vraiment adaptée aux malades. Tout ce qui m'enorgueillit du fait d'être médecin, c'est que pour les malades, on a été plutôt assez efficace, et que pour les bien portants, on est plutôt mauvais, voire négatif, délétère. Donc on ne devrait pas s'occuper des bien portants. Et quand un bien portant vient nous voir parce qu'il dit, voilà, je voudrais savoir si... Bon, si la médecine n'était pas un commerce, on devrait lui dire, non, je ne veux pas vous voir. Mais hélas, vous le savez, ou tant mieux, c'est un commerce, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais la médecine est aussi un commerce et on ne jette pas les bien portants puisqu'ils nous rapportent autant que les malades en fin de compte.
Oui, d'autant plus que nous avons et que la médecine actuelle a médicalisé, et le marché peut-être a médicalisé la vie.
Ah ben ça, bien sûr. Alors donc vous avez nommé un de mes vieux souvenirs, j'ai travaillé pendant 5 ans dans l'industrie, ça a été une expérience très riche, j'ai enfin compris comment ils procédaient, ça m'a permis de mieux comprendre, je le savais un peu mais maintenant j'en suis certain. Il est clair que ce qu'on appelle le disease mongering et la fabrication de maladies est l'activité principale aujourd'hui de l'industrie qui au début, je ne veux pas dire du mal, attention, hein, l'industrie j'en ai absolument, nous en avons besoin, hein, Dieu merci, on a eu les anticoagulants, l'insuline, la cortisone, les antibiotiques et on ne pourrait surtout pas s'en passer, les neuroleptiques et tant d'autres que je ne cite pas qui sont indispensables, mais il se trouve que nous sommes aussi arrivés là dans un peu un palier de la découverte de toutes ces chimiothérapies qui depuis les années 1980, et que voyant cela, il est logique, j'allais dire, entre guillemets, que le marché étant un peu à court de nouvelles idées, de nouvelles sources de science, j'allais dire, a un peu inversé la vapeur, et il cherche plutôt à créer des maladies plutôt que des médicaments. Hein. C'est un peu dans la phase dans laquelle on est.
L'adolescence, ça devient une maladie, la tristesse, devient une maladie.
Voilà, c'est ça. Le deuil, c'est assez amusant. Ouais. Il y a des choses, on peut lire, moi je lis beaucoup, vous en doutez, et là, vous lisez le manuel de psychiatrie sur le deuil. Je crois, alors je suis pas sûr des chiffres, pardonnez-moi, mais je crois que le premier manuel, le deuil était considéré comme pathologique après 3 mois ou 6 mois, je me rappelle plus. Dans le deuxième manuel, c'était après 2 mois. après, je crois que c'était 6 semaines, et dans le dernier manuel, c'est au bout de 2 semaines. Donc vous avez un deuil pathologique. Si vous êtes encore triste au bout de 2 semaines, c'est pathologique. Avant, ouais, c'était 6 mois. Voilà. Je donne ça, c'est une anecdote amusante, mais c'est significatif. Ce sont des manuels officiels de la médecine. Hein, voilà.
Luc Perrineau, spécialiste de la médecine évolutionniste ce matin dans CQFD. On vous retrouve pour un dernier chapitre. Ce sera après cette chanson. Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly. I'm in love and it's a crying shame. And I know that you're the one to blame. Stupid Cupid. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Picking on me. Connie Francis, Stupid Cupid, ce sera le dernier titre de cette émission aujourd'hui choisie par Nathalie Schoenberg. Et nous avons quelques minutes encore, effectivement, précieuses minutes avec vous, Luc Perrineau, notre grand invité aujourd'hui. Nous évoquons avec vous un domaine qu'on découvre, hein. C'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé ici dans cette émission, la médecine évolutionniste. C'est le titre d'un ouvrage que vous signez et qui est paru au Seuil. Et on va parler maintenant un moment de l'environnement qui est de plus en plus, on a l'impression, un peu source de danger pour notre corps, pour notre santé. On pense aux pesticides notamment qui sont très présents. Comment, quel regard hein, la médecine évolutionniste?
J'entends pas. Excusez-moi, je n'entends. Voilà, il y avait une coupe. J'ai pas entendu. Vous avez peut-être posé une question, j'ai pas entendu.
Pardon. J'y arrivais justement à cette question. Vous nous entendez là? C'est bon, Luc Perrineau?
C'est bien, oui.
Voilà, nous sommes en direct, c'est comme ça, c'est les aléas de la radio en direct. Quel regard un médecin évolutionniste porte-t-il justement sur cet environnement dont on a l'impression qu'il est de plus en plus dangereux pour notre corps? Est-ce qu'on va réussir à s'adapter à la présence de pesticides et autres substances a priori nocives pour notre corps?
Alors, vous ouvrez un chapitre qui lui avait, j'allais dire, précédé celui de la médecine évolutionniste, pardon, qui est celui de la médecine environnementale. Effectivement, ça fait quelques années que l'environnement pollué des villes, on sait que ça pose des problèmes de santé. Les pesticides, vous venez de les nommer. Et donc, ce sont de nouveaux problèmes sanitaires que nous devons affronter, en fin de compte, hein, que nos organismes doivent affronter. Alors, il faut comprendre, en ce qui concerne, ça c'est vraiment typiquement dans l'évolution, et je vais essayer d'être clair parce que l'idée n'est pas si simple que ça. Alors, pardonnez-moi, je vais prendre mon temps. Mettons que dans 10 ans, l'industrie invente un nouveau produit chimique pour traiter les champs ou je ne sais quoi, ou traiter les haricots. Un produit totalement inconnu qui n'a jamais existé, que personne n'a jamais vu. Ouais. Ce produit-là, qui va arriver dans 10 ans, donc ce produit hypothétique, hein, c'est une image. Ce produit-là, vous, moi, quelques personnes, ont déjà des gènes qui font qu'ils vont soit résister à la toxicité éventuelle de ce produit, soit au contraire, être très sensibles à ce produit. C'est-à-dire qu'avant que l'environnement change, la variabilité individuelle est telle qu'on peut dire à l'avance qu'il y a des gens pour lesquels ce sera nocif, d'autres pour lesquels ça ne fera rien, et d'autres, pourquoi pas, pour lesquels ce sera bénéfique, je n'en sais rien. Donc, je ne sais pas si ça, c'est clair. C'est-à-dire que la variabilité individuelle est telle que, de toute façon, tout le monde ne va pas réagir de la même façon.
Donc solution, Luc Perrineau, il faudrait connaître le génome, le génotype de chaque individu pour faire une médecine personnalisée.
C'est tout simplement impossible de connaître quels sont dans les gènes qui vont nous prédisposer à être sensibles à un produit qui n'existe pas encore. Donc c'est impossible. Par contre, ça devient un problème sanitaire lorsque le pourcentage de personnes qui vont être pour lequel le produit va être toxique dépasse un certain nombre. S'il y a une personne sur 1000 qui est sensible au glyphosate, par exemple, on va donner des noms pour que ce soit clair maintenant pour nos auditeurs, si une personne sur 1000, c'est triste à dire, mais ça n'est pas un problème sanitaire, c'est un problème individuel grave pour cette personne-là, évidemment, mais ça n'est pas un problème sanitaire. Le problème devient sanitaire lorsque vous avez 40% des personnes pour lesquelles le glyphosate va donner des troubles de la reproduction, par exemple, ce qui est le cas du glyphosate. Donc là, on est devant un gros problème sanitaire, vous comprenez, c'est le pourcentage de personnes, mais vous avez quand même 60% des personnes, je ne connais pas, pardonnez-moi, je donne des chiffres un peu comme ça, qui pour lequel le glyphosate n'a pas de répercussions nocives. Donc les lobbies vont vous dire, mais regardez, il y a plein de gens pour lesquels le glyphosate ne fait rien. Donc c'est aux législateurs et aux médecins de santé publique, à l'épidémiologiste, de dire, mais non, là on a atteint un seuil inacceptable de toxicité pour la population. Je pense que c'est...
Oui, mais justement, Luc Perrineau, comment associer cette médecine personnalisée et cette santé publique?
Eh bien donc là on peut repartir de cet exemple pour que ce soit clair. Donc si je ne fais que de la médecine individuelle, je prends l'exemple du glyphosate. Les antibiotiques seraient un meilleur exemple, on peut en parler après si vous voulez, mais je vais prendre l'exemple du glyphosate. S'il n'y a qu'une personne sur 1000 qui est sensible au glyphosate, moi, médecin révolutionnaire, je vais dire on arrête ce produit parce que mon patient est malade. Ça n'est pas très crédible, pardonnez-moi de dire ça, pour ce patient-là en tout cas. Voilà. Par contre... La médecine doit réagir, et là c'est un problème entre là, on est dans la politique, on n'est plus dans la santé publique, elle doit réagir en disant non, là c'est intolérable, nous sommes devant un vrai danger pour la population. Donc ça c'est vraiment, c'est notre rôle de médecin de santé publique. Mais je vais prendre l'exemple des antibiotiques, il est bien meilleur que celui du glyphosate. Si vous avez un enfant... de 2 ans qu'il y a une méningite, tous les médecins du monde que je connais, tous les parents du monde que je connais vont tout faire, ils vont utiliser tous les antibiotiques jusqu'au dernier, ils vont aller les chercher jusqu'au fond des Indes ou de l'Himalaya pour essayer de sauver cet enfant. Ça, c'est une réaction, c'est un réflexe. Donc nous sommes devant un problème de santé individuelle. Cette réaction poussée à l'excès, cette réaction saine, que je ne critique pas évidemment, vous vous en doutez, poussée à l'excès au niveau d'une population, a créé des problèmes d'antibiorésistance qui commencent à être devenus graves pour la population. C'est-à-dire qu'on a donc là une contradiction entre santé individuelle et santé publique. Là, je pense que l'exemple est plus précis peut-être.
Oui, mais les solutions ?
Alors, encore une fois, soit on essaye de ne pas être borné quand on est scientifique, on essaye de ne pas dire c'est tout ou rien. Il est probable que maintenant, nous avons dépassé le raisonnable en ce qui concerne la consommation d'antibiotiques, le raisonnable au niveau populationnel. Nous l'avons largement dépassé. Les germes résistants se trouvent dans les hôpitaux, dans les services de chirurgie lourde, où ils sont obligés d'en utiliser beaucoup. Et effectivement, vous avez des personnes bien portantes qui deviennent malades simplement par le fait d'aller à l'hôpital. C'est donc un nouveau problème que nous avons à affronter et il faut revenir au raisonnable. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire, ni Monsieur Macron qui va vous dire ce qu'est le raisonnable dans la consommation d'antibiotiques. C'est une collégialité de politiciens, de médecins, de citoyens qui vont dire non, là on ne donne plus dans une angine banale, on ne donne plus jamais d'antibiotiques, plus jamais. C'est une chose qu'on peut faire aujourd'hui sans aucun risque, par exemple. L'angine, antibiotique, c'est définitivement terminé. Définitivement, voilà. Donc, je vais donner un autre exemple qui m'a scandalisé il y a peu de temps. Vous savez que j'ai des colères parfois, de l'humour et des colères. Eh bien, le fameux ulcère à Helicobacter pylori, qui est le germe donc, qui est dans l'estomac, vous savez, qui existe depuis la nuit des temps. On s'est rendu compte qu'il donnait l'ulcère. Bon, très bien, donc on a traité cet ulcère avec des antibiotiques. Maintenant, ce germe naturel qui fait partie de notre microbiote est devenu tellement résistant qu'on donne 4 antibiotiques à des patients pour prévenir ou traiter leur ulcère. Là, on a dépassé ce que j'appelle le raisonnable. Donc là, c'est même plus le médecin qui doit intervenir, c'est le législateur.
C'est passionnant de découvrir finalement, quand on prend un peu de recul, un peu de champ, les enseignements qu'on peut tirer aussi de notre passé, de voir l'évolution, cette médecine évolutionniste des maladies au sein des humains, de ce groupe que nous sommes ici, que nous représentons sur Terre. Pour terminer assez rapidement, Luc Perrineau, le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours, est-il toujours valable ?
Ah, alors voilà, on sort de mon sujet préféré. Là. Ben, j'espère en tout cas que j'ai aidé quelques auditeurs à comprendre certaines choses. C'est le but de votre émission et de mon militantisme. Alors, sur le serment d'Hippocrate, bon, c'est clair que vous voulez me refaire parler de politique en début d'émission et en fin d'émission.
Oui, c'est ça, la boucle est sera bouclée.
La clôture de l'émission, c'est encore de la politique. Bon, c'est sûr que la médecine est clairement... la partie commerciale de la médecine est en train de clairement prendre le dessus. Il faut le dire avec humilité, modestie. Je ne veux pas dire du mal de mes confrères que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup de très respectables. Mais c'est vrai que l'aspect commercial de la médecine commence à être un problème de médecine. C'est un problème d'environnement. Oui, on peut tout ramener à l'évolution. Mmh. Hein, le fait que la médecine devient commerciale est un problème d'évolution de nos sociétés qui peut, à terme, alors pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas non plus exagérer, mais qui peut devenir délétère en termes de santé publique aussi. Hein. C'est un sujet, c'est un vrai sujet politique. Là. Appelons au secours Monsieur Macron, j'espère qu'il m'entend.
Oui, et ce sera l'objet de vos prochains livres, je suis sûr.
Voilà. Merci Luc Perrineau d'être venu aujourd'hui en direct dans CQFD, médecin généraliste, spécialiste de médecine tropicale, épidémiologiste, essayiste, blogueur, chroniqueur radio. Vous enseignez également à l'Université Claude Bernard de Lyon et vous signez donc Médecine évolutionniste, titre de votre dernier ouvrage qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Vous étiez invité par Sarah Dirène.
CQFD sur la première.